Bonjour David, bonjour à tous. Le tribunal administratif de Poitiers a validé les résultats des municipales de Saint-Varan. Les électeurs seront probablement invités à retourner aux urnes. La loi transpartisane portant sur les déserts médicaux, notamment portée par la députée de Sévrienne Delphine Bateau, examinée ce jeudi par le Sénat. Au-delà de l'aspect sportif, les Highland Games de Bressuire ce week-end font une large part aux musiques et danses celtiques. 3 concerts gratuits cette fin de semaine et week-end pour célébrer les 10 ans de l'installation du Conservatoire de musique et de danse de Thouars à l'hôtel Tindo. Et puis une belle soirée de remerciements et de revoir pleine d'émotions hier à l'espace Michel Léger de Cholet pour les joueurs et le staff de CB. Quant à la météo, le beau temps s'installe. Les électeurs savarantais devront sans doute retourner aux urnes. Le tribunal administratif de Poitiers a en effet décidé d'annuler l'élection municipale de Saint-Varan. Rappelons que le maire sortant, Pierre Rambaud, avait été élu avec une seule petite voix d'avance face à la liste emmenée par Dimitri Gouget. Ce dernier avait alors déposé un recours au motif qu'une procuration n'avait pas été prise en compte le jour du scrutin et la justice l'a donc entendu. Pour ce dernier, c'est un peu une surprise. Dimitri Gouget.
On est d'abord surpris puisque ça va à l'encontre de ce qu'avait donné comme orientation le rapporteur public. Donc on sait qu'en général le tribunal suit ses recommandations. Donc oui, surpris. Ça nous conforte dans notre démarche d'avoir été jusqu'au bout de ce recours, de dire que bah oui, on était dans le vrai. Et que oui, à un moment donné, toutes les voix ont la même importance et cette voix qu'elle n'avait pas pu s'exprimer, on la prend en considération maintenant. On va attendre les directives de la préfecture désormais. C'était la première fois que je me présentais à des élections municipales. C'était la première fois que nous déposions un recours et que nous allions au tribunal. Et donc voilà, tout est une première fois. Donc j'ai pas beaucoup d'éléments à vous donner sur la suite de cette procédure, sachant qu'elle n'est pas habituelle non plus. Oui. Si ça prend une dimension un petit peu particulière parce qu'on a appris que la procuration qui n'avait pas pu s'exprimer en fait depuis ce monsieur est décédé, donc ça prend une dimension un petit peu plus importante à nos yeux. En fait.
Quant au maire sortant Pierre Rambaud, il prend acte de cette décision de justice.
Je prends acte de la décision. Le seul regret, c'est que effectivement la décision du juge vient de briser une très belle dynamique municipale, puisque nous, on avait lancé tous les projets de notre profession de foi, donc en à peine 3 mois. Pour le moment, c'est très succinct. Hein. J'ai juste pu lire effectivement l'annulation des élections sur le site du tribunal administratif. J'ai absolument pas la décision en main. Donc je vais d'abord voir l'argumentation du juge, ce qu'il retient comme élément, avant de prendre toute décision.
Mais vous pourriez éventuellement essayer de casser cette décision.
Je sais pas, ça dépend de la teneur de la décision. Je sais même pas quand je vais avoir l'arrêt sous les yeux. Je pense que ça devrait être assez rapide, mais je sais pas. Donc je pense que je me laisserai le temps de réfléchir, puisque après, s'il faut retourner devant les urnes, nous retournerons devant les urnes. Après, ce qui pose plus d'interrogations, c'est la date de l'éventuelle réélection. Il faudrait que ce soit une date qui permette une forte mobilisation de la population. Aujourd'hui un des enjeux principaux.
Quoi qu'il en soit, Pierre Rambaud dispose d'un mois pour contester cette décision d'annulation des résultats du scrutin du 15 mars dernier prononcé par le tribunal administratif de Poitiers. À l'inverse, du côté de l'APSI, le recours de la conseillère municipale Emmanuelle Chauvin, qui contestait la régularité de la campagne électorale, qui a vu la victoire d'Anne-Marie Poitou, a été rejeté. Nous apprend aujourd'hui la Nouvelle République. La députée Delphine Bateau va suivre de très près les discussions au Sénat ce jeudi, c'est en effet aujourd'hui que doit être examinée la loi transpartisane sur les déserts médicaux. L'élu écologiste de Sévrienne appelle les sénateurs à voter ce texte qui prévoit d'empêcher l'installation des médecins dans les zones suffisamment dotées. Delphine Bateau, au micro de D4B.
Cette loi, qui est la proposition de loi du groupe transpartisan contre les déserts médicaux dont je fais partie, qui a été déjà votée à l'Assemblée nationale, elle fait une chose très simple, c'est qu'elle permet que les nouveaux médecins qui s'installent là où on a besoin d'eux, c'est-à-dire dans les déserts médicaux. Autrement dit, un médecin peut s'installer partout où il veut, mais dans un désert médical, pas dans les territoires, comme par exemple sur le littoral, pas loin de chez nous, où il y a déjà suffisamment de médecins. Donc cette loi, elle vise à mettre fin aux inégalités territoriales en matière de démographie médicale.
Delphine Bateau qui précise d'autant plus que 87% du territoire national est aujourd'hui en déficit de médecins. Les métiers du transport et de la logistique ont démonstration cette fin de semaine, place Saint-Jacques à Bressuire. L'ERIP, espace régional d'information de proximité, France Travail et Cap Emploi organisent deux temps forts dans le cadre de la semaine des métiers du transport et de la logistique. La première matinée ce jeudi était axée sur les transports en commun avec la collaboration de la Fédération nationale des transports de voyageurs, l'APSI Voyage, Airvouette, l'Ascodec ou encore Alliance Atlantique. La seconde, demain de 9h à midi, toujours place Saint-Jacques, sera consacrée au métier du transport et de la logistique avec toujours pour objectif de faire découvrir un secteur dynamique et qui recrute. Vous pourrez ainsi rencontrer des entreprises locales, des organismes de formation et des professionnels qui présenteront leur métier, leur parcours et les perspectives d'emploi du territoire. Et puis en parlant de recrutement, justement, je vous rappelle que la Fédération ADMR des Deux-Sèvres organise ce jeudi de 15 à 20 heures au Hangar 2.0 à Bressuire son premier forum dédié au métier du soin et de l'accompagnement à domicile, secteur également à la recherche de personnel. Un grand défilé dans le centre-ville de Bressuire pour les Highland Games. La partie sportive, certes, sera marquée cette année par le premier championnat d'Europe féminin, mais aussi un Open international masculin, ainsi qu'un championnat de France UFOLEP. Mais les Highland Games se distinguent également par ses animations et son folklore, avec cette année deux groupes de danse et cinq paille-bandes. Les danseurs et danseuses défileront ce samedi 13 juin dès 15h30 de la place des Anciens Combattants jusqu'au château de Bressuire. Jean-Luc Copé, fondateur de l'AGEF, est toujours aussi présent.
Cinq paille-bandes, cinq ensembles de cornemuses et caisses claires, donc dont deux qui viennent directement d'Écosse. L'un revient de la ville jumelle, Fraserburgh, et l'autre de Troon, une autre ville. Et les paille-bandes françaises seront de l'Aquitaine paille-bande, Ascolabrook, qui vient de la région de Nantes, de Blain, et le Continental Caledonia paille-bande, qui est basé à Bressuire. Ça, c'est la partie paille-bande, avec un concours samedi et dimanche. Et puis, les danseuses, en fait, sur la scène et en alternance, on verra un groupe de danse, la Gordon School of Dance, qui vient d'Écosse depuis de nombreuses années, et une école de danse irlandaise qui vient de Nantes, qui est d'un excellent niveau et qui proposera là un répertoire de danse irlandaise, River Dance, Celtic Legends et autres, et qui a la particularité d'être accompagnée par un orchestre de musiciens qui seront présents sur la scène.
L'école de danse écossaise qui nous vient de Montrose animera ce samedi le marché couvert de Bressuire dès 10h30 en partenariat avec la municipalité et l'Union des commerçants. À retrouver également le samedi soir à 21h le concert d'Escalibur, groupe celtique de la région du Mans. Le folklore reste donc une part essentielle de ces Highland Games.
Ils ont essayé de marcher toujours sur les deux jambes avec la partie sportive, les sports de force traditionnels écossais, et la partie musicale, le Celtic, la musique, les paille-bandes, la danse, la folk music, etc. Donc il faut les deux ingrédients pour que des Highland Games soient authentiques. Le château, c'est un patrimoine, mais on va dire que c'est un lieu extraordinaire. Lorsque les paille-bandes défilent dans l'allée centrale, eh bien le public, il veut être là parce qu'il se passe quelque chose sous la voûte des arbres, là, il se passe quelque chose, il y a une vibration qui est unique.
Les Highland Games, samedi 13 et dimanche 14 juin, donc, au château de Bressuire. Billetterie sur place, 12€ pour la journée du samedi, 10 pour celle de dimanche. Le pass week-end est à 18€, 16 si vous réservez via Internet. Voici trois bonnes raisons pour fêter l'anniversaire du couple Tindot Conservatoire, ce week-end à Thouars. Le 10e anniversaire du Conservatoire de Thouars, dans son hôtel du 15e siècle, se poursuit ce week-end grâce à trois concerts gratuits, demain soir, samedi et dimanche en fin d'après-midi. 10 ans pour célébrer la réimplantation réussie des écoles de musique et de danse, logées à la Diable, dans un bâtiment historique, sans promesse d'avenir, mais finalement requinqué par la volonté de la communauté du Thouarsais. Le directeur François Goutal, au micro-colline de notre correspondant Thouarsais, Dominique Hérault.
Tindot fait partie effectivement d'une fierté partagée. Et ce qu'on constate aussi en plus, c'est que le nouveau conservatoire, il a parfaitement rempli son rôle d'aider le conservatoire à aller plus loin dans son projet pédagogique. Et c'est ça qu'on constate tous ensemble aujourd'hui.
C'est un conservatoire qui est partagé entre les musiciens et les danseurs.
Oui, c'est ça. En fait, on a à peu près 40% de danseurs et puis 60% de musiciens pour un effectif qui est entre 750 et 800 élèves tous les ans. On a aussi le projet Demos qui s'est développé avec la Philharmonie de Paris. Là aussi, c'est un orchestre de 120-130 enfants qui sont issus de tout le territoire, des communes. Donc, vous voyez, Tindot, c'est devenu un lieu de rencontre et de partage autour de la musique pour un grand nombre d'habitants, de familles qui sont touchés à travers les différents dispositifs Demos, les interventions en milieu scolaire, les orchestres scolaires, voilà, il y a tout ça. Et c'est aussi une équipe. Il y a 25 enseignants qui savent travailler ensemble, qui ont beaucoup d'initiatives. Donc, le bâtiment Tindo rayonne par la qualité de son architecture et il rayonne aussi par la qualité des projets proposés par l'équipe pédagogique.
Trois concerts s'offrent aux oreilles. Demain soir à 20h30 au conservatoire, le concert du Cri du Cœur et du Cœur Pop-Rock de Tindo. Samedi à 18h en l'église Saint-Long, le concert pour partie de musique sacrée par les chœurs de femmes de Tindo et de Sibylla de Poitiers. Enfin, dimanche à 16h, le conservatoire accueillera le concert des chœurs d'enfants de Tindo et du conservatoire de Poitiers. Reportage signé Dominique Hérault. Les journées européennes de l'archéologie ont lieu du vendredi 12 au dimanche 14 juin en Touarçais. Le service architecture et patrimoine du pays d'art et d'histoire propose une exposition au bain-douche de Thouars les après-midi jusqu'au 21 juin. Une conférence de Baptiste Davy, archéologue à l'INRAP, conférence concernant un diagnostic sur une demeure du centre ancien. Ce sera ce vendredi 12 juin à 19h à la station T de Thouars. À noter également une flânerie nocturne sur le thème Thouars au Moyen-Âge, samedi à 21h, départ devant la mairie, sans oublier une visite commentée par Didier Poncet du dolmen de Montpalais à Thésée ce vendredi à 14h30. Le sport, vous le savez, la saison de Cholet Basket s'est clôturée en demi-finale de Betclic Elite mardi soir avec cette défaite dans le match 4 contre Paris Basketball. Au-delà de la déception, les supporters choletais ont salué hier soir à l'espace Michel Léger cette saison incroyable qui a débuté certes timidement mais qui au fil des matchs les a fait vibrer comme jamais. Le président de Cholet Basket, Jérôme Mérignac.
On ne pouvait pas sortir comme ça de cette superbe saison. Et on se devait de faire, on va dire, une belle soirée de clôture et d'hommage. C'est la première fois qu'on le fait. Et on a dit, viens qui veut. Et la tribune est pleine, donc c'est superbe. J'avais dit qu'on allait avoir beaucoup d'émotions, que les larmes allaient être présentes. Et je peux vous assurer que les personnes que j'ai vues, tout le monde l'a lâché.
Ouais, on a tous un peu les yeux mouillés. Puis il y a ce formidable hommage. Et puis ce maillot qui est retiré, là, le maillot TJ.
Ouais, exactement. C'est un de plus. Ça montre un petit peu ce que sont les légendes par rapport à Cholet Basket. Il va aller rejoindre ce qu'on a déjà levé. Il le mérite, c'est génial. Et moi j'ai repris le club, la présidence il y a maintenant 7 ans. J'ai fait 4 ans et demi avec lui. Bon, voilà, ça a été un vrai bonheur parce que c'était vraiment quelqu'un qui était touchant, charmant, qui était toujours à l'écoute des autres et qui était vraiment un super mec.
Voilà, propos recueillis par Vincent Nori. Beaucoup d'émotions, effectivement, hier soir, soirée lors de laquelle, effectivement, le maillot de TJ Campbell, le fameux numéro 44, a été retiré. Un TJ aux larmes devant une tribune copieusement garnie qui ne voulait pas manquer cette soirée des merci et des au revoir. Nathan de Souza et Gérald Ayaï également ne porteront plus le maillot de CB la saison prochaine. Cholet Basket travaille depuis quelque temps déjà sur le recrutement de nouveaux joueurs puisque près de 50% de l'effectif devra être renouvelé. Bien entendu, nous y reviendrons.